Bonjour à chacun.
Bonjour.
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Tout d'abord un grand merci à Pascal qui nous a permis, à Nelly, mon épouse, et à moi-même d'être parmi vous ce matin. Je vous apporte les salutations de l'Église évangélique La Bonne Nouvelle de Lyon, dont je suis le pasteur depuis un certain temps. Et si vous le permettez, je vais leur rapporter les salutations de votre propre communauté. Il y a quelques mois, le Seigneur m'avait mis à cœur de prêcher sur ce qu'Abraham, le père des croyants, avait à nous apprendre sur la vie par la foi. Et c'est ainsi que j'ai médité de façon suivie sur Hébreux 11, versets 8 à 19. Et en y réfléchissant, il m'a semblé que les leçons que nous trouvons plus particulièrement développées dans les versets 17 à 19, où il nous est dit qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, quelle foi tout à fait exemplaire, il m'a semblé que ces leçons que nous trouvons dans ce passage s'appliquaient aussi à vous qui fréquentez cette église de Figeac. Et donc, je vous invite à lire en Hébreux 11, versets 8 à 19, et en particulier les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritaient avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui partent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et voici donc les versets que nous méditerons ce matin. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Et nous lirons également dans l'Ancien Testament le récit auquel notre texte fait référence, à savoir Genèse 22, versets 1 à 19. On est obligé de lire ces longs passages, mais c'est pour que vous ayez le contexte. Donc Genèse 22, versets 1 à 19. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, il répondit « Me voici ». Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, puis l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, dit « Mon père ». Il lui répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il y gota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, appela du ciel et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors, Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de tes ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Un récit magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle le plan de ce chapitre 11 des Hébreux. Merci beaucoup. Donc, dans ce que nous avons lu dans ce chapitre 11 des Hébreux, il y a tout d'abord les versets 1 à 3 qui servent en quelque sorte d'introduction et insistent sur l'excellence de la foi. Il y a ensuite les versets 4 à 7 où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit le type de foi nécessaire, la qualité de foi nécessaire pour plaire à Dieu, essentiellement au travers de l'exemple d'Abel, d'Enoch et de Noé. Et il y a enfin la troisième partie qui commence au verset 8 et qui va jusqu'à la fin du chapitre, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue de décrire la vie de foi, tout en mettant plus particulièrement en évidence les réalisations de la foi. Ces réalisations de la foi sont évidemment très diverses, mais en les mentionnant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit toujours le même but. Quel est ce but? Prouver aux Juifs messianiques d'alors, si éprouvés à tous égards, que le principe de la foi n'est pas un principe nouveau, mais qu'il a existé depuis le commencement. Et avec le verset 8, nous sommes donc entrés de plein pied dans cette troisième partie, et ce, au travers de l'exemple d'Abraham. Alors Abraham, je vous le rappelle, c'est le premier grand patriarche de l'Ancienne Alliance, la seule personne dans toute la Bible qui soit appelée l'ami de Dieu. Celui que l'apôtre Paul appelle en Romains 4, 11, le père de tous ceux qui croient. C'est dire l'importance du personnage que ne manque pas de souligner à sa façon le chapitre 11 des Hébreux. Le fait que les versets que nous nous proposons de méditer ce matin se situent dans la partie d'Hébreux 11 qui mentionne les réalisations de la foi et que le modèle qui nous est proposé est celui d'Abraham, le père des croyants, ne peut que nous interpeller très fortement. En effet, s'il y a nécessairement identification entre ceux qui ont vraiment la foi et Abraham, le père des croyants, cela implique aussi qu'il ne suffit pas de se prétendre enfant d'Abraham pour l'être effectivement. Encore faut-il le prouver par des œuvres similaires aux siennes. Ainsi Jésus rétorque-t-il à ses interlocuteurs incrédules qui ne reconnaissent ni qui il est vraiment, ni sa mission. Il leur dit « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. » Venons-en donc à présent ces versets 17 à 19, où il est question du sacrifice d'Isaac, et dans lesquels la foi d'Abraham, dans l'acceptation de ce qui aurait normalement dû d'un point de vue humain, rendre cette réalisation de la promesse impossible, cette foi nous est donnée en exemple. Relisons d'abord les versets 17 et 18. « C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. » Il est clair que l'ordre d'immoler Isaac fut la plus grande épreuve de foi d'Abraham. Isaac n'était en effet pas seulement l'enfant unique d'Abraham et de Sarah, mais il était né miraculeusement alors que ses parents étaient déjà fort avancés en âge. L'Écriture nous dit explicitement qu'Abraham était déjà âgé de 100 ans quand Isaac est né, et Isaac avait dû représenter, à n'en pas douter, pour ses parents âgés, un véritable rayon de soleil. Avoir un petit bambin quand on a 100 ans. Il ne s'agissait donc pas seulement de donner la mort de ses propres mains à son fils chéri, mais aussi et surtout de supprimer le seul enfant par lequel pourraient être réalisées les promesses d'une nombreuse postérité. On le voit, l'épreuve était véritablement de taille, ce que confirme l'Écriture lorsqu'elle souligne le fait qu'il s'agissait d'une mise à l'épreuve. Il s'agissait d'une mise à l'épreuve. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et tout ceci nous rappelle que la vraie foi sera inévitablement testée. La vraie foi sera inévitablement testée. Et l'épreuve d'Abraham pourrait être caractérisée de la façon suivante. C'est une épreuve soudaine et imprévue. C'est une épreuve qui a touché Abraham dans ses affections les plus profondes. C'est une épreuve qui a pu le surprendre, tant par ses aspects révoltants que par son intensité. Enfin, c'est une épreuve qui comporte un triple test sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. À Lyon, j'ai consacré tout un message à ces trois mots, mise à l'épreuve. Autrement dit, la réalité de l'épreuve. Pour ce matin, je me bornerai à dire ceci. En tant qu'être humain, nous ne souhaitons pas l'épreuve. Mais lorsqu'elle nous atteint, ce qui compte ultimement, car on ne peut rien changer à la réalité de l'épreuve, c'est la façon dont nous y faisons face. Et de fait, les mêmes circonstances vont être utilisées par Satan pour nous tenter en vue de nous faire tomber, et par Dieu pour nous éprouver en vue de faire son œuvre dans nos vies. Et tout dépendra de la façon dont nous réagirons. Tout dépendra de la façon dont nous réagirons. Et Abraham est un magnifique exemple de la bonne façon de réagir à l'épreuve. Il avait compris, pour reprendre les paroles de Romains 8, 28, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque nous passons par l'épreuve, sommes-nous convaincus, comme Abraham l'était, que toutes choses, même les plus petits détails de notre vie, sont entre les mains du Dieu souverain qui nous veut du bien. Dans le cas d'Abraham, cette ultime épreuve comportait un triple test. Un test de foi, un test d'obéissance et un test d'amour. Un test de foi d'abord. L'épreuve ultime d'Abraham comporte un test de foi. C'est ce qui ressort en priorité de notre passage, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Verset 19. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Nous avons tellement l'habitude de lire ces textes qu'il nous apparaît presque banal qu'Abraham ait cru. Mais nous rendons-nous compte de l'épreuve énorme à laquelle Abraham a été confronté? Comprenons-nous vraiment ce qui lui a été demandé? Toutes les épreuves qu'Abraham avait connues précédemment n'étaient rien à côté de celle-ci. Abraham se trouve en effet soudainement placé devant un dilemme humain sans solution, doublé d'un problème théologique. Comment Dieu peut-il attendre d'un père comme lui qu'il sacrifie de ses propres mains son fils unique, même s'il est vrai qu'à l'époque, le père avait une autorité absolue de vie et de mort sur ses enfants? Comment Dieu peut-il le contraindre à quelque chose qui pouvait ressembler à un rite idolâtre, les sacrifices humains étant fréquemment accomplis à l'époque par des païens soucieux d'apaiser ainsi la colère de leur divinité? Par ailleurs, pourquoi Dieu lui demande-t-il de sacrifier ce fils qu'il avait attendu si longtemps et sur qui se concentrait tant d'espérance? Encore s'il s'agissait d'Ismaël, mais d'Isaac. Cet Isaac qui, dans la pleine force de la jeunesse, n'avait pas encore pris femme pour accomplir la promesse si souvent renouvelée au sujet de la postérité. S'il y eut une fois tempête sous un crâne, ce fut bien à ce moment-là chez Abraham. Une tempête qui dura 4 jours, depuis le moment où Dieu lui réclama Isaac, jusqu'à celui où il le lia sur l'autel et brandit le couteau sur lui pour l'égorger, en passant par le moment où Isaac lui demanda où était l'agneau pour l'Holocauste. Face à une telle situation, la foi était bien le seul moyen qu'avait Abraham de faire face à l'ordre de Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen. Voyons à présent comment la foi d'Abraham a trouvé la force de triompher si magnifiquement de ce test extrême. Je pense qu'Abraham a trouvé cette force dans une logique spirituelle rigoureuse. Ce serait bien sûr une grave erreur de penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'Abraham s'est précipité vers la montagne en chantant « Alléluia ». Ce ne sont donc pas une exubérance d'esprit ou des vagues d'émotions qui l'ont soutenu dans son sinistre devoir, mais c'est une logique spirituelle et rigoureuse. Abraham a réfléchi, il a raisonné, et il en a déduit la solution du problème. Voyez l'importance d'une intelligence soumise à l'enseignement des Écritures et à leur logique. Et voilà comment Abraham a raisonné. Dieu n'a pas seulement promis qu'il aurait beaucoup de descendants, mais il a spécifié que c'était par Isaac qu'il aurait ses descendants. Isaac n'ayant pas encore d'enfant, n'étant pas même encore marié, si Dieu demandait à présent qu'Isaac soit immolé, cela ne pouvait en aucune façon signifier que Dieu revienne sur sa promesse. La seule possibilité qui existait, c'est que Dieu ressuscite Isaac d'entre les morts. Dieu pouvait le faire et il le ferait. C'est ainsi que nous comprenions mieux ce fabuleux passage de Genèse 22, 4 à 5, où nous lisons ce qui suit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons auprès de vous. Remarquez bien ces paroles, « puis nous reviendrons auprès de vous ». Ce « nous » désigne clairement ici Abraham et Isaac. Et pour Abraham, c'est évident que s'il était amené à tuer Isaac, eh bien, que Dieu le ressusciterait et qu'ils reviendraient ensemble. La logique scripturaire et spirituelle d'Abraham était simple, mais à vous couper le souffle. Mais c'était également une logique saine et solide, et Dieu fut ravi de l'honorer en rendant Isaac à Abraham, lui épargnant ainsi une mort virtuelle. C'est John Knox, ce grand réformateur, qui a écrit « Abraham reçut son fils de la mort en ce sens que sa vie fut épargnée de façon inattendue. » Sa vie fut épargnée de façon inattendue. Et ce faisant, il en faisait non un prototype, le prototype c'est le type ou le modèle premier original ou principal, mais une préfiguration. Une préfiguration, c'est ce qui représente tous les caractères d'un être ou d'une chose à venir. Une préfiguration non pas de n'importe quoi, mais de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et le verset 12 en hébreu précise qu'il y a là un symbole. Ce sujet mériterait d'être développé dans un autre message. On le voit, même si une fois de plus la foi obtient un triomphe sur la mort, la logique de la foi ne raisonne pas en disant que si Dieu nous aime, il devrait nous préserver des épreuves, de la maladie, du sacrifice et de la mort. C'est pas ça la logique spirituelle biblique. La logique spirituelle biblique soutient au contraire, en paraphrasant Romains 8, 38 et 39, par contre, que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ou de l'accomplissement de ses promesses. Nous n'échapperons pas à l'épreuve, mais nous pouvons être sûrs que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ou de l'accomplissement de ses promesses. Ce fut à l'évidence un extraordinaire test de la foi. Mais quelle foi sublime dans l'amour et la puissance de Dieu! Dieu n'a-t-il pas suscité dans le cœur d'Abraham? Car si Abraham consentit à l'immolation, c'est qu'il avait pleinement foi dans la résurrection d'Isaac. Bref, ce qui ressort de notre texte, c'est qu'Abraham a eu la seule attitude possible face à cette montagne spirituelle que représentait le commandement de Dieu. S'il ne voulait pas se laisser écraser par cette montagne spirituelle. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et verset 19, il comptait que Dieu est puissant même pour le ressusciter d'entre les morts. Eh bien, nous aussi, dans nos vies personnelles, nous avons nos diverses montagnes spirituelles. Sans exception, comment allons-nous réagir? Et puis, il y a les montagnes spirituelles que nous devons affronter ensemble en tant que peuple de Dieu. Par exemple, dans le domaine de l'évangélisation mondiale, dans la confession de foi, de l'engagement du CAP, je voulais vous présenter cet ouvrage qui rassemble les documents du mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde. Ce sont d'excellents documents évangéliques. Dans cette confession de foi de l'engagement du CAP, on lit ceci. Disciples de Jésus, nous sommes un peuple de l'Évangile. Le cœur de notre identité est notre passion pour la bonne nouvelle biblique de l'œuvre salvatrice de Dieu par Jésus-Christ. Et un peu plus loin, la mission de Dieu découle de l'amour de Dieu. Notre mission en tant que peuple de Dieu découle de notre amour pour Dieu et tous ceux que Dieu aime. L'évangélisation mondiale et le débordement de l'amour de Dieu pour nous et par nous. Retenez bien cette phrase que je trouve très belle. L'évangélisation mondiale et le débordement de l'amour de Dieu pour nous et par nous. Si nous évangélisons, c'est parce que Dieu a mis en nous son amour qui déborde et qui fait que nous avons envie de partager cet amour. Et donc, ce que j'aimerais vous prendre conscience, c'est que nous avons dans nos vies personnelles des montagnes spirituelles, mais il y a aussi des montagnes spirituelles que nous vivons en tant que peuple de Dieu. Et donc, si nous voulons, dans la perspective du mouvement de Lausanne, que l'Église tout entière porte l'Évangile tout entier au monde entier, les défis sont nombreux, les montagnes spirituelles sont nombreuses. J'aimerais vous donner trois exemples. Un exemple de montagne, qui n'est pas la moindre, c'est celui d'atteindre les villes du monde, y compris la ville de Figeac, avec l'Évangile, puisque bientôt 80% de la population mondiale vivra dans les villes. Et donc, si nous voulons atteindre le monde avec l'Évangile, il nous faudra nécessairement aussi chercher à atteindre toutes ces villes avec l'Évangile. Un vrai défi, une importante montagne spirituelle. Deux autres exemples de montagnes spirituelles liées à notre hexagone. Peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a en France la troisième population juive au monde, après Israël et les États-Unis. Comment allons-nous atteindre ces personnes juives, avec l'Évangile dans notre pays? Et puis, il y a cette autre montagne spirituelle que nous connaissons tous en France. Nous sommes une minorité. Ici, dans l'Aveyron, les évangéliques sont aussi une minorité. Vous faites partie de cette minorité. Comment atteindre cette région avec l'Évangile alors que nous ne sommes qu'une minorité? Voilà nos montagnes spirituelles. Eh bien, face à ces immenses défis, allons-nous comme Abraham, mais aussi Caleb et Josué, placer notre confiance en Dieu, ou allons-nous au contraire nous laisser décourager et se faisant décourager l'ensemble du peuple de Dieu? Veuille le Seigneur au contraire nous faire la grâce de croire qu'il est suffisamment puissant pour susciter non seulement les solutions et les ressources nécessaires, mais aussi les ouvriers pour atteindre ces multitudes avec l'Évangile du bon berger. Si l'épreuve ultime d'Abraham comporte premièrement un test de foi, elle comporte deuxièmement un test d'obéissance. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. J'aimerais souligner le fait que l'obéissance d'Abraham fut totale et c'est résolument qu'il sacrifia son enfant. Calvin commente à juste titre lorsqu'il écrit: il n'a point tenu à Abraham qu'il n'alla jusqu'au bout de ce qui lui avait été commandé. Cette volonté d'obéir vaut autant que s'il eût sacrifié son fils. Cette volonté d'obéir vaut autant que s'il eût sacrifié son fils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de même que la foi naît de la promesse, de même l'obéissance procède de la foi. Je répète. De même que la foi naît de la promesse, de même l'obéissance procède de la foi. C'est parce qu'Abraham a eu la foi, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il a obéi. Et quel exemple d'obéissance n'est-il pas pour nous ? Abraham n'a en effet rien fait pour se soustraire à l'examen infligé par Dieu. Il n'a posé aucune question, ni argumenté. Il n'a pas davantage réclamé un délai de réflexion. Au contraire, sa disponibilité pour Dieu est remarquable. Genèse 22, 1, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Notez bien sa réponse immédiate « Me voici » et son obéissance sans délai et sans réserve puisqu'il se lève tôt pour obéir. Genèse 22, verset 3, « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac ». C'est une telle obéissance immédiate et sans réserve qui offre toutes les garanties, car d'une part elle élimine ainsi les arrière-pensées, et d'autre part elle barre le passage aux immanquables réactions de la chair, toujours en mal de récupérer ce qui est destiné au sacrifice. C'est Calvin encore qui avait l'habitude de dire « Quand Dieu parle, il faut s'assujettir, et s'assujettir promptement ». Quand Dieu parle, ben, il faut obéir, et obéir promptement. Et sa devise en lien avec l'obéissance était d'ailleurs « prompte et sincere », promptement et sincèrement. Et puis encore un point qui m'apparaît particulièrement intéressant, Abraham non seulement obéit, mais il se donne les moyens d'obéir. Bien qu'Abraham dispose de centaines de serviteurs, il en avait au moins 318 lors de la bataille des rois, il ne confie à personne d'autre la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu. Genèse 22, 3. Abraham sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il ne confie à personne d'autre la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu. Comment aurait-il en effet pu confier à d'autres la charge de sceller l'âne ou de fendre le bois, alors qu'il ne pouvait révéler le but de l'expédition projetée à qui que ce fût, et surtout pas à Sarah, sa femme? N'aurait-elle pas alerté tout le camp pour empêcher Abraham de sacrifier Isaac, et ne se serait-il pas trouvé autour de lui de nombreuses bonnes âmes qui, par sentimentalisme, l'auraient invité à désobéir à Dieu, ou tout simplement des gens bien intentionnés qui auraient vu des preuves de sénilité dans son obéissance aveugle. Et on n'aurait pas manqué d'entraver, d'empêcher l'expédition pour sauver Isaac et soigner Abraham. Nous avons ici la preuve qu'il y a dans la vie du croyant certains combats, certains fardeaux que nous ne pouvons partager avec personne. Pas même avec ceux qui nous sont les plus proches dans la foi. La seule chose que nous pouvons et devons faire, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ seul, ainsi que nous exhorte Hébreux 12. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est exactement ce qu'Abraham a fait, lui dont Jésus lui-même dira « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jean 8, 58. Le prix de l'obéissance à payer était inestimable. Mais Abraham a su se montrer parfaitement docile entre les mains de Dieu et a pleinement assumé ses choix. Et nous, disciples de Jésus-Christ, quel que soit le type de notre ministère, sommes-nous disponibles entre les mains de Dieu comme Abraham l'a été. Enfin, n'oublions surtout pas de considérer les fruits qui ont été la conséquence de l'obéissance totale d'Abraham. On peut relire dans Genèse 22. Dans Genèse 22, versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit Abraham à Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et voilà ce qu'il dit au verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma parole, parce que tu as écouté et obéi à ma parole. Et je crois que l'on peut vraiment dire, donc là on vient de lire les fruits qui ont été la conséquence de l'obéissance totale d'Abraham, et je crois que l'on peut vraiment dire que c'est à partir de ce moment qu'Abraham a reçu de Dieu le diplôme Abraham, ami de Dieu et père des croyants. Abraham, ami de Dieu et père des croyants. Après un test de foi et d'obéissance, l'épreuve ultime d'Abraham comporte troisièmement un test d'amour. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu des promesses. La question cruciale qui se posait est évidemment la suivante. Qui venait le premier dans le cœur d'Abraham? Et ça rejoint plusieurs des cantiques que nous avons chantés ce matin. La question cruciale qui se posait était évidemment la suivante. Qui venait le premier dans le cœur d'Abraham? Qui tenait la place prééminente dans son cœur? Isaac ou Dieu? Dieu avait requis ce qu'Abraham avait de plus précieux. Aucun autre test n'aurait pu être plus poignant et plus révélateur. La réponse d'Abraham fut sans ambiguïté. En offrant à Dieu ce qu'il avait de plus cher sur cette terre, il manifestait clairement que Dieu était le premier dans son cœur et qu'il était lui seul digne d'être adoré et servi de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Sans doute n'y a-t-il eu aucun autre homme à qui le Seigneur ait réclamé une telle chose. Mais si Abraham a su faire les bons choix, retenez ceci, c'est qu'il a su mettre à sa place, et ça a été dit dans une prière, c'est qu'il a su mettre à sa place sa vieille nature pécheresse têtue, dont l'âne de Genèse 22, 3 à 5 est la réplique bien suggestive. Pour pouvoir un jour adorer sur la cime, il faut commencer par laisser l'âne, notre ego, au pied de la colline. Abraham, lui, a été l'adorateur en esprit, en vérité, qu'il a été, parce qu'il a, en son temps, rempli les conditions proposées par Jésus lui-même à quiconque voulait être son disciple. Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Que Dieu nous fasse la grâce de comprendre, à l'instar du Père des croyants, que le sacrifice véritablement agréable à Dieu n'est pas l'immolation d'un fils, mais la consécration du cœur. C'est agréable à Dieu. C'est par-dessus tout la consécration du cœur. Et si on y réfléchit bien, celui que Dieu voulait, ce n'était pas Isaac, mais Abraham lui-même. Ce matin, le Seigneur nous dit, pour reprendre Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Je conclus. Ces trois tests, celui de la foi, celui de l'obéissance et celui de l'amour, nous pouvons et devons bien sûr nous les appliquer à nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur lui-même nous interpelle personnellement en ces termes. Me fais-tu vraiment confiance? Obéis-tu à ma volonté? Suis-je la priorité absolue dans ta vie? Que Dieu sonde mon cœur. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas des Abraham qui lui-même était imparfait, mais qui nous donne un exemple extraordinaire. Mais nous sommes des enfants d'Abraham par pure grâce. Tu as fait de nous, par grâce, tes enfants. Et Seigneur, après avoir médité ce passage, nous voudrions, comme Abraham, répondre par la foi à tes appels. Nous voudrions non seulement croire en toi et en ce que tu nous demandes, mais aussi obéir à tes commandements. Et Seigneur, nous sommes bien conscients que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais Seigneur, nous te prions que par ton esprit qui vit en nous, nous puissions effectivement non seulement comprendre ce que tu attends de nous, mais aussi le mettre en pratique avec l'aide de ton esprit. Et Seigneur, encore ce matin, nous voulons te dire, par-dessus toute autre chose, que tu es digne de recevoir l'adoration de tout notre être. Tu es digne que nous te servions avec toutes les forces que tu nous as données, toute l'énergie que tu nous as donnée. Tu es digne, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.